Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Première apparition publique de Donald Trump depuis les événements du Capitole. Le président sortant assure que son discours de mercredi dernier était tout à fait convenable, nous l'entendrons. Sécheresse, conflits, épidémies entraînant des crises humanitaires trop souvent passées sous silence. L'ONG CARE alerte sur la situation d'une dizaine de pays en détresse, parmi eux le Burundi, cinquième pays le plus pauvre du monde, précision de Valérie Crova. Face à la hausse de la circulation du Covid-19 et à la menace d'une forme plus contagieuse, le couvre-feu suffit pour le moment, estime Jean Castex. Le Premier ministre a rassuré les députés de la majorité sur la campagne de vaccination, reportage de Rosalie Lafarge. Le parcours de personnes obèses candidates à la chirurgie bariatrique, c'est le thème d'une émission d'M6 qui déclenche la colère des associations anti-grossophobie. Nous en parlerons avec Thomas Giraudeau. Menacé d'une procédure de destitution, Donald Trump se défend. Le président américain sortant fait sa première apparition publique après son discours de mercredi dernier, lors duquel il avait galvanisé ses partisans. Si des centaines d'entre eux avaient ensuite attaqué le Capitole, ce n'est pas de sa faute, dit en substance Donald Trump, interrogé à son départ de Washington.
Nous ne voulons pas de violence, jamais. La procédure d'impeachment, c'est vraiment le prolongement de la plus grande chasse aux sorcières dans l'histoire de la politique. C'est ridicule, totalement. Cette procédure provoque une énorme colère. C'est une chose terrible qu'ils sont en train de faire. Cela crée un immense danger pour notre pays et beaucoup de colère. Je ne veux pas de violence.
Donald Trump qui va donc bientôt arriver au Texas où vous vous trouvez, Sébastien Paour, à McAllen, à la frontière avec le Mexique. Le président américain vient donc vanter sa politique d'immigration et la construction du mur frontalier avec le Mexique. Quel est le programme au Texas ?
Alors écoutez, il va se poser dans 2 heures à quelques kilomètres d'ici, à Arlington. On est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière mexicaine. Il va se poser avec Air Force One. Il a décollé tout à l'heure depuis Washington, vous l'avez entendu. Juste avant ça, de monter dans l'hélicoptère puis dans l'avion. Il va ensuite venir en hélicoptère jusqu'ici à McAllen. On est à quelques kilomètres là de la frontière, on est quasiment sur la frontière mexicaine. Et l'attendent ici devant l'aérodrome de McAllen, à la fois ses supporters et ses opposants. Et c'est assez rare dans ce territoire autour du Rio Grande, de la vallée du Rio Grande, à deux pas du mur avec le Mexique. Il y a ici des démocrates, Biden 2020, avec des drapeaux Trump barrés d'un rond rouge, et de l'autre côté du carrefour, gardé évidemment par des forces de police, ses partisans, à lui, et notamment des hispaniques, qui sont évidemment très nombreux ici. Une dame me faisait remarquer à l'instant que la moitié des habitants de cette région ont tous ou presque un membre de leur famille d'origine mexicaine. Tous sont venus, et ils viennent les uns les autres, les républicains et les démocrates, attendre ou s'opposer au président américain qui vient faire effectivement ici sa première sortie depuis les événements du Capitole mercredi dernier. Événements dont on dit ici qu'ils ont été téléguidés par les Antifa, en tout cas c'est ce que disent les partisans de Donald Trump ici. Et les démocrates de l'autre côté nous disent qu'ils espèrent que la seconde procédure de destitution arrivera à son terme et le fera quitter son bureau avant le 20 janvier, avant la passation de pouvoir avec Joe Biden. Donc arrivé ici dans un peu plus de 2 heures du président américain pour voir le mur qu'il a souhaité faire construire, dont il vante une réussite de sa présidence. Il n'y a que quelques dizaines de kilomètres qui ont été rénovés ou construits pendant les 4 ans de sa présidence, moins même que pendant celle de Barack Obama.
Sébastien Paour, notre envoyé spécial au Texas. Donald Trump qui perd un fidèle partisan aujourd'hui. Sheldon Adelson, fondateur du groupe Las Vegas Sands, est mort cette nuit à 87 ans, à la tête d'un empire estimé à 35 milliards de dollars. C'était un pilier financier du Parti républicain. Détention arbitraire, rééducation politique, torture et stérilisation forcée. Londres dénonce des violations inacceptables des droits humains dans la région du Xinjiang en Chine. Et le Royaume-Uni en tire les conséquences, annonçant des mesures visant à interdire les échanges de marchandises liées au travail forcé des Ouïghours, dans un contexte de relations déjà tendues avec Pékin. La correspondance de Richard Place à Londres.
C'est une sanction pour la Chine et une mise en garde pour les entreprises britanniques, très clair. Les sociétés qui ont des liens avec la région du Xinjiang vont devoir se conformer à des règles strictes et des contrôles pointilleux. Le ministre des Affaires étrangères promet un durcissement des lois anti-esclavage avec de lourdes amendes à la clé pour ceux qui profiteraient de l'exploitation des Ouïghours. Les fournisseurs chinois qui ont recours à cette main-d'œuvre seront exclus du marché britannique dès que les preuves seront suffisantes. Là encore, le gouvernement promet de nouveaux efforts. Enfin, dernier point, toutes les exportations à destination de cette région de Chine vont être examinées et si leur usage favorise d'une manière ou d'une autre l'esclavage ou plus largement la violation des droits de l'homme, elles seront aussitôt interrompues. En pleine recherche de nouveaux accords commerciaux d'envergure post-Brexit, Londres ne fléchit pas face à l'alléchant marché chinois. Déjà en conflit sur Huawei et la 5G, sur Hong Kong également, le Royaume-Uni dit pourtant vouloir une relation positive et constructive avec Pékin.
Richard Place, à Londres. Elles affectent des millions de personnes et sont pourtant négligées par la plupart des médias. Comme chaque année, depuis 5 ans, l'ONG CARE sort un rapport sur les crises humanitaires oubliées et elle constate que la sortie de la PlayStation 5 a engendré 26 fois plus de couverture médiatique que ces crises liées à la sécheresse, aux conflits, aux épidémies ou à l'insécurité alimentaire. Parmi les 10 pays pointés du doigt par CARE, vous nous proposez un coup de projecteur sur le Burundi, Valérie Crova.
C'est un petit pays enclavé entre le Rwanda, la RDC et la Tanzanie. Un petit pays qui a connu une crise importante en 2015. 400 000 Burundais ont été contraints à l'exode. Depuis, le climat politique s'est amélioré, mais pas la situation économique. Le Burundi reste le 5e pays le plus pauvre du monde. Benoît Munch, directeur régional de CARE International pour la région des Grands Lacs.
Structurellement, c'est un pays qui est quand même extrêmement vulnérable, avec très peu de ressources, donc une grande dépendance à l'agriculture, et qui est donc du coup extrêmement sensible à tout ce qui est variation climatique. Et donc, on sait que cette année, il y a eu quand même pas mal d'inondations qui ont affecté les cultures, qui ont affecté aussi les mouvements de population, du coup qui ont aussi eu un impact direct sur la capacité des gens à pouvoir se nourrir.
Sauf que le Burundi n'intéresse guère les médias et les pays donateurs.
C'est une crise qui dure, donc maintenant on parle de plus de 5 ans maintenant où il y a un besoin régulier d'assistance humanitaire, mais comme il y a un manque d'attention, on parle d'une crise sous-médiatisée. Donc du coup, le fait qu'on ne parle pas beaucoup du Burundi, on a du mal à mobiliser des fonds pour pouvoir subvenir à ces besoins-là.
Selon l'ONG CARE, 200 millions d'euros suffiraient à combler les besoins humanitaires du Burundi.
Valérie Crova.